السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آج جن بدری صاحبہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام ہے حضرت عبید.
Le premier des compagnons de Badr que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Ubayd bin Abu Ubayd Ansari Aussi. Selon Ibn Hisham, Ubayd appartenait à la famille Banu Umayya de la tribu Aws. Ubayd avait accompagné le saint prophète Mohammed lors de la bataille de Badr, lors de la bataille d'Uhud et de la bataille du Fossé. Il n'existe pas plus de détails à son sujet. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Norman bin Baldama. Son grand-père paternel se nommait Baldama ou Balzama. Abdullah bin Norman appartenait à la famille Banu Khunais de la tribu Khazraj. Abdullah bin Norman était le cousin paternel d'Abu Qatada. Abdullah bin Norman avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Ensuite, le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Umair. Abdullah bin Umair appartenait à la tribu Banu Judara. Il avait participé à la bataille de Badr. Selon un récit, son père se nommait pas Umair mais Ubayd. Selon d'autres récits, son grand-père se nommait Adi ou Haritha, selon d'autres. Selon Ibn Hisham, il appartenait à la tribu Banu Jadara. Et selon Ibn Ishaq, il appartenait à la Banu Haritha. Tous deux sont des chroniqueurs historiques. Le prochain compagnon se nomme Amr bin Harith. Amr bin Harith appartenait à la tribu Banu Harith. Selon certains, il se nommerait Amr ou Amir selon d'autres. Abu Nafé était son nom d'emprunt. Amr avait embrassé l'islam au tout début à la Mecque. Il avait aussi participé à la deuxième immigration en Abyssinie ainsi qu'à la bataille de Badr. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Ka'b. Abdullah bin Ka'b appartenait à la tribu Banu Marzan. Son père se nommait Ka'b bin Amr et sa mère se nommait Rubab bint Abdullah. Il était le frère d'Abu Layla Marzani. Un de ses fils se nommait Harith. Il était né de Zubaybah bint Aws. Abdullah bin Ka'b avait participé à la bataille de Badr. Le jour de la bataille de Badr, le saint prophète Mohammed bissos à lui l'avait choisi pour surveiller les butins de guerre. En d'autres occasions, il était aussi responsable de la part des biens qui revenaient au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Ka'b avait participé à la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Ka'b est décédé à Médine en l'an 33 de l'Hégire au cours du califat d'Othman. Et ce fut le calife Othman qui avait dirigé sa prière funéraire. On disait que ses noms d'emprunt étaient Abu Harith ou Abu Yahya. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais appartenait à la tribu Banu Najjar. Son grand-père, selon le recueil d'histoire, se nomme Khalid ou Khalada selon la Tabaqat al-Kubra. Le fils d'Abdullah bin Qais se nommait Abdurrahman et sa fille se nommait Umayra. Leur mère se nommait Suwad bint Qais. Abdullah bin Qais avait une autre fille qui se nommait Umm Aoun. Abdullah bin Qais avait participé à la bataille de Badr et à la bataille d'Uhud. Selon Abdullah bin Mohammed Mar Ansari, Abdullah bin Qais serait tombé à martyr lors de la bataille d'Uhud. Selon d'autres, il était toujours vivant après Uhud et il avait accompagné le saint prophète Mohammed bissos à lui dans toutes ses batailles et il serait décédé au cours du califat d'Othman, radiallahu anhu. Il existe des divergences dans les recueils d'histoire et c'est pour cette raison que j'en fais mention ici. Le prochain compagnon se nomme Salama bin Aslam. Salama bin Aslam appartenait à la tribu Banu Haritha bin Harith. Son père se nommait Aslam. Selon un récit, son grand-père se nommait Harish ou Harif selon d'autres récits. Abu Sa'd était son nom d'emprunt. La mère de Salama se nommait Suad bint Rafi. Salama bin Aslam avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud, à la bataille du Fossé et à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed bissos à lui. Au cours de la bataille de Badr, Salama bin Aslam avait emprisonné Saïd bin Ubaid et Nu'man bin Amr. Salama bin Aslam est tombé à martyr lors de la bataille de Disr à l'époque du calife Omar. Cette bataille a eu lieu sur les rives de l'Euphrate. J'ai mentionné quelques détails sur cette bataille dans un précédent sermon. C'était une bataille importante entre les musulmans et les persans. Disr signifie « pont ». En effet, un pont avait été bâti sur le fleuve et les musulmans étaient partis de l'autre côté. Les Persans avaient utilisé des éléphants de combat lors de cette bataille. En tout cas, les deux belligérants avaient subi des pertes importantes, en particulier les musulmans. Salama bin Aslam avait environ 38 ans selon des récits divergents. Dans son fameux Sirat Halbiya, Alama Nuruddin Halbi relate ceci à propos des miracles accomplis par le saint prophète Mohammed bissos à lui lors de la bataille de Badr. L'épée de Salama bin Aslam s'était brisée lors du combat. et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lui a offert un bâton tiré d'un dattier et il lui a dit de se battre avec. Quand Salman bin Aslam l'a pris entre ses mains, eh bien, ce bâton s'est transformé en une épée redoutable et il en disposait toujours par la suite. Selon la Sharh Zurqani et Dalail Nabuwa, l'épée de Salman bin Aslam s'était brisée lors de la bataille de Badr et Salman était resté les mains vides sans armes. Le saint prophète, paix soit sur lui, lui a donné un bâton et lui a conseillé de se battre avec. Et ce bâton s'est transformé en une épée redoutable, une épée que Salama avait toujours en sa possession jusqu'au jour de la bataille de Disra. Selon Ibn Sa'd, lors de la bataille du Fossé, le drapeau des émigrants était entre les mains de Zayd bin Haritha et le drapeau des Ansar était entre les mains de Sa'd bin Ubadah. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait placé Salman bin Aslam à la tête de 200 personnes. Salman était à la tête de ce détachement de 200 personnes. Et Zayd bin Haritha était quant à lui à la tête de 300 personnes. Ils avaient pour mission d'assurer la sécurité de Médine et de réciter le takbir à voix haute. La raison était que le lieu sous la protection des Banu Qurayza où se trouvaient les enfants pouvait subir un assaut à tout moment. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait fait l'objet d'un complot d'assassinat. Et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relate ceci à ce propos. Il déclare que l'humiliation cuisante causée par la défaite lors de la bataille de l'Ahzab consumait les Quraishites de la Mecque. Et tout naturellement, Abu Sufyan, le chef de la Mecque, brûlait le plus de ce feu. C'était lui qui souffrait le plus de l'humiliation causée par cette campagne. Ce feu le dévorait de l'intérieur, mais il ne put se maîtriser pour longtemps, et en fin de compte, les étincelles latentes surgirent et se manifestèrent. Tout naturellement, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était la cible de l'inimitié des mécréants. Il était en fait l'unique cible de leur inimitié. Abu Sufyan s'était résolu à user de complots et de subterfuges pour faire assassiner le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, étant donné que les méthodes ouvertes et les batailles n'avaient pas été efficaces. Il savait que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ne jouissait pas d'une protection rapprochée, voire parfois il partait ça et là dans les rues de la ville sans aucun garde. Il venait tout au moins 5 fois par jour dans sa mosquée pour les prières. Et lors de ses voyages, il ne faisait aucune formalité et il était aisément accessible. Cela aurait été là une aubaine pour un tueur à gages. L'idée de faire assassiner le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'ancra davantage dans l'esprit d'Abu Sufyan. Lorsqu'il s'y résolut, l'occasion s'est présentée un jour et il en fit mention à quelques jeunes Quraishites. Il leur dit « Personne n'est-il assez brave parmi vous pour se rendre à Médine afin d'assassiner secrètement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez très bien qu'il parcourt les rues de Médine librement. » Cette phrase pénétra les cœurs de ces jeunes dès qu'ils l'entendirent. Et l'idée s'est répandue. Et après quelques jours, un jeune bédouin qui a entendu cette idée d'un autre jeune, s'est rendu auprès d'Abu Sufyan pour l'informer qu'il était prêt à exécuter son plan. Et ce jeune a déclaré que « Je suis brave et je suis courageux. Ma poigne est ferme et mon attaque est soudaine. Je suis prêt à assassiner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si vous me choisissez pour cette tâche et si vous m'accordez votre soutien. Je dispose d'un poignard qui sera caché à l'instar des plumes secrètes d'un faucon de chasse, c'est-à-dire qu'il va cacher son poignard. Et je vais m'attaquer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je vais m'enfuir pour me joindre à une caravane. Et les musulmans ne pourront pas m'attraper. D'ailleurs, je maîtrise très bien les routes de Médine. Touravi Abu Sufyan a déclaré très bien, tu es l'homme de la situation. Abu Sufyan a offert au jeune une chamelle rapide et des provisions ou des dépenses pour son voyage. Et se séparant de lui, Abu Sufyan lui a conseillé vivement de ne dévoiler son secret à personne. En quittant la Mecque, eh bien, le jeune s'est caché durant la journée et il a voyagé durant la nuit dans la direction de Médine. Et il a atteint Médine le sixième jour. S'étant renseigné sur le saint prophète Mohammed, il s'est rendu directement dans la mosquée des Banu Abdel Ash'al, où se trouvait le saint prophète Mohammed. Étant donné que durant ces jours, nombre de visiteurs venaient à Médine, eh bien, les musulmans n'ont pas eu de doute à propos de l'assassin ou à propos de ses intentions. Mais dès qu'il est entré dans la mosquée et dès qu'il s'est avancé dans la direction du saint prophète Mohammed, le saint prophète a déclaré que cette personne n'a pas de bonnes intentions. L'assassin a entendu les paroles du saint prophète Mohammed, et dès qu'il a entendu ces paroles, il s'est avancé rapidement dans la direction du saint prophète. Mais Usayd bin Hudayr, un des chefs Ansari, a bondi sur lui, et dans la lutte, le poignard qu'il tenait a blessé l'assassin. L'assassin qui s'est exclamé tout effrayé, « mon sang », c'est-à-dire « tu m'as blessé ». Quand il a été maîtrisé, le saint prophète Mohammed, lui a demandé, « dis la vérité, qui es-tu et quelles sont tes intentions ?» Le jeune a répondu que « si vous me promettez de ne pas me tuer, je vous dirai la vérité ». Le saint prophète, lui a commenté, « si tu dis toute la vérité, je te pardonnerai ». Sur ce, il a raconté toute l'histoire au saint prophète Mohammed, Il a raconté l'histoire à la lettre en ajoutant qu'Abu Sufyan lui avait promis quelques récompenses. Le jeune est passé quelques jours à Médine et par la suite, de son propre chef, en écoutant le saint prophète Mohammed, il a embrassé l'islam. La tentative d'assassinat ourdie par Abu Sufyan démontra qu'il fallait être encore plus vigilant quant aux intentions des Mécois. Et afin de découvrir leur complot, le saint prophète Mohammed a envoyé à la Mecque deux de ses compagnons. Ces deux compagnons se nommaient Amr bin Umayya Zamri et Salama bin Aslam, le compagnon que je mentionne aujourd'hui. Il les a envoyés à la Mecque. Étant donné le complot d'assassinat ourdi par Abu Sufyan et ses projets sanguinaires dans le passé, eh bien, ces deux compagnons avaient aussi la permission d'assassiner cet ennemi juré de l'islam si jamais l'occasion se présentait. Or, les Mécois étaient suspicieux lorsqu'Umayya et son compagnon sont arrivés à la Mecque, et tous deux ont rebroussé chemin vers Médine afin de rester en vie. En cours de route, ils sont tombés sur deux espions des Quraychites, envoyés par les chefs Quraychites pour se renseigner sur les va-et-vient des musulmans, ainsi que les va-et-vient du saint prophète Mohammed, Il était fort probable qu'il s'agissait d'un autre complot sanguinaire des Quraychites pour assassiner le saint prophète Mohammed, comme dans le premier cas. Il tentait de tuer le saint prophète Mohammed, mais par la grâce d'Allah, Umayya et Salama bin Aslam ont découvert leur activité d'espionnage et ils ont attaqué ces deux espions pour tenter de les emprisonner. Mais lors du combat, un des espions a été tué et le deuxième a été fait prisonnier et il a été emmené à Médine. L'opinion des historiens diverge sur la date de cette expédition. Selon Ibn Hisham et Tabari, cette expédition a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire, mais selon Ibn Sa'd, cette expédition a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire. Allama Asqalani et Zurqani préfère la date présentée par Ibn Sa'd. Ayant analysé ces divers récits, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a aussi présenté l'an 6 de l'Hégire. En tout cas, Allah, c'est le mieux. Baihaqi est aussi d'accord avec la teneur du récit d'Ibn Sa'd, mais il n'a pas présenté la date de cet événement. L'on trouve aussi mention de Salman bin Aslam dans le cadre du traité de Hudaybiyah. Oumé Amara relate : « J'ai vu le saint prophète Mohammed assis le jour du pacte de Hudaybiyah. Abad bin Bishr et Salama bin Aslam étaient debout à ses côtés et ils portaient tous les deux des casques de fer. Quand Suhail bin Amr, l'émissaire des Quraishites, éleva la voix devant le saint prophète Mohammed, ses deux compagnons lui ont demandé de baisser la voix devant le saint prophète Mohammed. C'était là un service qu'il avait rendu en cette occasion. Le prochain compagnon se nomme Uqba bin Uthman. Sa mère se nommait Umm Jamil bint Qutba. Uqba appartenait à la tribu Banu Zurek des Ansar. Uqba et son frère nommé Sa'd bin Uthman avaient tous les deux participé dans les batailles de Badr, du Fossé et de Houd. Selon divers recueils de l'histoire, ces deux frères faisaient partie de ceux qui avaient abandonné le champ de bataille à Uhud lors d'une violente contre-attaque. Uqba bin Uthman et Sa'd bin Uthman faisaient partie de ces personnes et ils se sont rendus sur la montagne Jila située en face d'Arwaz. Et ils sont restés là-bas durant 3 jours. Arwaz est un lieu situé à quelques kilomètres de Médine. Et ils sont retournés auprès du saint prophète Mohammed pour l'en informer. Et le saint prophète Mohammed a déclaré : vous étiez parti là où il y avait de l'aisance. En tout cas, le saint prophète Mohammed a fermé les yeux sur leur conduite. Et le saint prophète Mohammed leur a accordé son pardon. Et il ne les a pas réprimandés. Le prochain compagnon se nomme Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal appartenait à la tribu Banu Zaroura, une tribu qui était l'alliée des Banu Abdel Ash'al. On dit aussi que Abdullah était un Rassanide. Selon certains, Abdullah bin Sahal se nommait aussi Zayd ou Rafi. Sa mère se nommait Thorba bin Tayyihan. Elle était la sœur d'Abul Haytham bin Tayyihan. Abdullah bin Sahal était le frère de Rafi bin Sahal. Il avait participé à la bataille de Badr. Son frère Rafi l'avait accompagné lors des batailles d'Uhud et du Fossé. Abdullah bin Sahal est tombé en martyr lors de la bataille du Fossé. Une flèche d'un membre des Banu Waif l'avait touché. Mughira bin Hakim relate ceci : j'ai demandé à Abdullah bin Sahal s'il avait participé à la bataille de Badr. Abdullah a répondu : oui, j'étais présent à Badr et j'étais aussi présent à la Bayra d'Aqaba. Abdullah bin Sahal avait participé à la Ghazwa ou à l'expédition de Hamra ul-Assad. Hamra ul-Assad est un lieu situé à 12 km de Médine. Subul ul-Huda, une biographie du Saint-Prophète Mohammed bin Sahal, lui en fait mention. On y relate qu'Abdullah bin Sahal et son frère Rafi bin Sahal appartenaient tous les deux à la tribu des Banu al-Ash'al. Ils étaient sérieusement blessés lors de la bataille d'Uhud. Abdullah était le plus blessé des deux. Les deux frères ont entendu l'ordre du Saint-Prophète Mohammed lui. Ils demandaient aux musulmans de se rendre à Hamra ul-Assad pour se joindre à l'armée. Lorsque les deux frères ont entendu l'ordre donné par le Saint-Prophète, l'un a dit à l'autre par Allah, « Si nous n'accompagnons pas le Saint-Prophète, paix soit sur lui lors de cette expédition, ce sera là une très grande perte. » Ils étaient certes blessés, mais ils étaient animés de leur foi. Le frère a dit à l'autre, « Mais nous n'avons pas de monture et nous ne savons pas comment accomplir cette mission. » Abdullah lui a dit, « Nous allons nous y rendre à pied. » Rafi a répondu, « Par Allah, je ne suis même pas capable de marcher en raison de mes blessures. » Son frère lui a dit, « Nous allons nous y rendre lentement et nous allons partir à la rencontre du Saint-Prophète Mohammed Pessoa sur lui. » Ils ont avancé clopin-clopant et quand Rafi se sentait faible, Abdullah le portait sur son dos et il marchait à pied. Ils étaient à ce point blessés, mais celui qui allait mieux portait celui qui était le plus blessé. Ils ont quand même avancé vers le Saint-Prophète Mohammed lui. La faiblesse les empêchait parfois d'avancer tant et si bien qu'ils sont arrivés auprès du Saint-Prophète Mohammed lui à l'heure de la prière des chats. Les compagnons avaient allumé les feux et ils avaient campé là-bas pour la nuit. Tous les deux se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed lui. Abad bin Bishr était celui qui assurait la sécurité du Saint-Prophète Mohammed lui cette nuit-là. L'envoyé d'Allah a demandé aux deux frères, « Qu'est-ce qui vous avez retenu ?» Ayant entendu la raison, le Saint-Prophète Mohammed lui pria pour eux et il a déclaré, « Si vous vivez longtemps, vous aurez des chevaux, vous aurez des mules, vous aurez des chameaux comme monture. Vous êtes venu ici clopin-clopant, mais si vous vivez longtemps, vous disposerez de tout type de monture. Or, les voyages que vous accomplirez sur ces montures ne seront pas meilleurs que ce voyage que vous avez accompli à pied aujourd'hui. » C'est-à-dire les récompenses et les bénédictions qui découleront de ce voyage seront innombrables. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ici-bas l'arrière-plan de l'expédition Hamra ul-Assad pour laquelle ses compagnons avaient suivi le Saint-Prophète Mohammed Bissos sur lui. Il déclare à ce sujet que la nuit d'après la bataille d'Uhud fut une nuit de grande peur à Médine. Car bien que l'armée des Quraychites était apparemment retournée à la Mecque après leur semblant de victoire, les musulmans craignaient que cette manœuvre ne soit un complot pour les prendre au dépourvu et pour revenir soudainement pour attaquer Médine de nouveau. Ainsi, ils avaient remporté un semblant de victoire lors de la bataille d'Uhud et ils retournaient à la Mecque. Mais les musulmans avaient peur que ce soit là un subterfuge de leur part et qu'ils ne retournent vers Médine pour attaquer les musulmans. Ainsi, cette nuit-là, un arrangement fut pris pour assurer la sécurité à Médine. En raison de ces doutes, et les compagnons ont monté la garde toute la nuit autour de la résidence du saint prophète Mohammed, peace be upon lui. Le lendemain matin, on a découvert que cette appréhension n'était pas pure spéculation, car avant la prière de Fajr, le saint prophète a appris que l'armée des Quraysh avait campé à quelques kilomètres de Médine, et il y avait un débat houleux entre les chefs de la Mecque. Certains ont dit, pourquoi ne pas profiter de cette victoire pour attaquer Médine? Certains des Qurayshites se moquaient des autres en disant, vous n'avez pas tué Mohammed, vous n'avez pas pris des femmes musulmanes comme esclaves et vous n'avez pas saisi leurs richesses et leurs biens. Au lieu de cela, lorsque vous avez eu le dessus sur eux et lorsque vous avez eu l'opportunité de les détruire complètement, vous les avez laissés et vous avez fait demi-tour afin qu'ils puissent reprendre des forces. Il est encore temps, retournons et attaquons Médine et déracinons les musulmans une fois pour toutes. Et d'autres ont soutenu, vous avez eu la victoire, considérez ceci comme une chance et retournez à la Mecque de peur de perdre notre réputation et que cette victoire ne se transforme en défaite. Parce que si vous attaquez Médine maintenant, les musulmans vont se battre de toutes leurs forces et ceux qui n'avaient pas participé à Uhud sortiront également sur le champ de bataille. En fin de compte, l'opinion des passionnés l'emporta et les Qurayshites se préparèrent à retourner vers Médine. Quand le saint prophète, paix soit sur lui, en fut informé, il annonça immédiatement que les musulmans devaient se préparer. Mais en même temps, il ordonna qu'à l'exception des combattants qui avaient pris part à Uhud, personne d'autre ne devrait partir avec eux. Ainsi, les combattants de Uhud, qui étaient la plupart blessés, et j'ai déjà mentionné deux de ces blessés, eh bien, ces combattants ont pansé leurs blessures et ils sont partis en compagnie de leur maître. On dit que les musulmans sont partis avec tant de joie et de zèle, comme si c'était une armée triomphante à la poursuite de l'ennemi. Après avoir parcouru une distance de 12 kilomètres, le saint prophète a atteint Khamraoul Assad, où ils ont découvert les cadavres de deux musulmans. Et après enquête, on a compris qu'il s'agissait de deux espions que le saint prophète avait envoyés sur les traces des Qurayshites. Mais les Qurayshites les avaient exécutés. Lorsqu'ils ont pu le faire, le saint prophète, paix soit sur lui, a ordonné qu'une seule tombe soit creusée et que ces deux martyrs y soient enterrés. C'était le soir et le saint prophète a ordonné que le camp soit installé en cet endroit. Et il avait en outre ordonné que des feux soient allumés à différents endroits dans la plaine. Et en un rien de temps, 500 feux furent allumés dans la plaine de Khamraoul Assad, ce qui a ébloui le cœur de tous les spectateurs de loin. Cela a inspiré la crainte. On croyait qu'ils étaient très nombreux dans ce camp. Très probablement, à cette occasion, un chef idolâtre de la tribu Khuza, nommé Marbad, s'est présenté au saint prophète, paix soit sur lui, et a offert ses condoléances pour ceux qui étaient tombés en martyr à Uhud. Ensuite, Marbad a continué son chemin. Le lendemain, lorsqu'il est arrivé à Rawha, situé à environ 63 km de Médine, eh bien là-bas, il a trouvé l'armée des Qurayshites qui y campait. Et les préparatifs étaient en cours pour retourner vers Médine. Marbad est parti voir Abu Sufyan et il lui a dit ceci. Que souhaitez-vous faire là? Par Dieu, je viens de laisser derrière moi l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Khamraoul Assad. Et jamais auparavant, je n'ai vu une armée aussi impressionnante. Il regrette tellement la défaite à Uhud qu'ils vous réduiront en cendres lorsqu'ils vous verront. C'est-à-dire, ils vont vous détruire complètement, ils vont vous anéantir. Abu Sufyan et ses compères étaient tellement impressionnés par les commentaires de Marbad qu'ils ont abandonné l'idée de retourner à Médine et ils se sont précipités à la Mecque. Quand le saint prophète a appris que l'armée des Qurayshites s'était enfuie, il a remercié Dieu et il a déclaré « La crainte de Dieu a terrassé le cœur des infidèles ». Ensuite, il est resté quelques jours à Hamra al-Assad. Et après une absence de 5 jours, il est retourné à Médine. Le prochain compagnon se nomme Utba bin Rabia. L'opinion des historiens diverge sur sa tribu d'origine. Selon Ibn Ishaq, il était l'allié de la tribu Banu Lawzan et il appartenait à la tribu Bahra. Selon d'autres, il était l'allié de la tribu Aws. En tout cas, il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud. Selon Alama ibn Hajar Asqalani, Utba bin Rabia était un des commandants ayant participé à la bataille de Yarmouk. Il dit qu'il s'agit de cet Utba que j'ai mentionné. Voici quelques détails sur la bataille de Yarmouk. En l'an 12 de l'Hégire, lorsque Abu Bakr est retourné à Médine après le Hajj, eh bien, il a envoyé une armée en l'an 13 de l'Hégire dans le Levant. Amr bin al-As a été envoyé en Palestine, Yazid bin Abi Sufyan, Ubaïda bin al-Jarrah et Sharhabil bin Hassana ont reçu l'ordre de se rendre à Taboukia en passant par Yalka, qui est située au nord du Levant. Abu Bakr avait nommé Khalid bin Saïd commandant de l'armée avant de le remplacer par Yazid bin Abi Sufyan. Ils sont partis vers le Levant accompagnés de 7000 combattants. Les commandants des armées musulmanes se sont rendus au Levant, dans la région de la Syrie. Héraclius se trouvait en personne à Homs et les Byzantins avaient réuni une très grande armée. Héraclius avait choisi des commandants différents pour combattre chaque commandant musulman. Les préparatifs de l'ennemi avaient surpris les musulmans. Certains, dont la foi était chancelante, étaient terrifiés, car les musulmans étaient au nombre de 27 000. Vu cette situation, Amr bin As a reçu l'ordre de se joindre aux autres armées. Une fois réunis, en dépit de leur faible nombre, il ne sera pas facile de les vaincre. S'ils se réunissaient, eh bien, il ne sera pas facile de les vaincre. Si chaque corps d'armée combattait séparément sous son commandant, eh bien, il ne subsistera aucune armée qui pourra venir en aide à l'avant-garde. La raison étant que chaque troupe musulmane avait en face de grandes armées. Ainsi, on décida de réunir toutes les armées musulmanes à Yarmouk. D'ailleurs, le calife Abu Bakr avait conseillé à tous les musulmans de se réunir et de former une seule armée et d'accroître leur nombre face à l'ennemi. Et Allah leur accordera son soutien. Il a déclaré « Allah viendra en aide à celui qui l'aidera et il humiliera celui qui le rejettera ». Ainsi, en dépit de votre faible nombre, l'ennemi n'aura pas le dessus sur vous, car vous serez en train de combattre pour la cause de Dieu. Mais si vous êtes 10 000 ou plus, mais que vous êtes tous des pécheurs, eh bien, vous serez certainement vaincus, même si vous êtes 10 000. C'est-à-dire que les musulmans ne devaient pas se soucier de leur nombre. S'ils sont 10 000 ou plus, mais qu'ils étaient coupables de péchés et d'actes blâmables, eh bien, ils seraient certainement vaincus. Ainsi, vous devez éviter les transgressions et vous devez vous unir à Yarmouk pour combattre ensemble. Chaque armée devra accomplir la Salah avec son commandant. L'armée musulmane a assiégé l'armée byzantine à partir du mois de Safar de l'an 13 de l'Hégire jusqu'au mois de Rabiul Thani. Les musulmans n'ont pas remporté de victoire au cours de cette période. Et le calife Abu Bakr a envoyé comme renfort Khalid bin Walid d'Irak. Khalid bin Walid était le gouverneur d'Irak. Avant l'arrivée de Khalid bin Walid, chaque commandant combattait séparément avec son armée. Et sur place, Khalid bin Walid a conseillé à tous les musulmans d'élire un seul commandant. Et tous l'ont choisi comme leur chef. L'armée byzantine comptait entre 200 à 240 000 soldats. Et l'armée musulmane comptait entre 37 à 40 000 soldats, c'est-à-dire environ un cinquième de l'armée byzantine. 80 000 soldats byzantins avaient les pieds entravés et 40 000 autres s'étaient enchaînés afin qu'ils combattent jusqu'à leur mort sans la possibilité de prendre la fuite. Ces 120 000 soldats devaient se battre jusqu'à la mort. 40 000 autres s'étaient attachés avec leurs turbans. Et il y avait 80 000 cavaliers et 80 000 fantassins. D'innombrables prêtres étaient présents pour attiser l'ardeur guerrière des soldats byzantins. Pendant que durait la bataille, Abu Bakr est décédé au cours du mois Jamad al-Akhir des suites de sa maladie qui avait débuté au cours du mois de Jamad al-Ula. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Lors de la bataille, Khalid avait divisé l'armée en plusieurs détachements. On rapporte qu'ils étaient en 36 et 40 détachements, mais ils combattaient sous un seul commandant. Utba bin Rabia était le chef d'un des détachements. Khalid a déclaré, « L'ennemi est certes nombreux, mais en raison de notre formation, l'ennemi croira que nous sommes plus nombreux. » Les faits suivants démontrent l'importance de cette armée musulmane. Cette armée comprenait 1000 aînés qui avaient vu le visage béni du Saint-Prophète Mohammed lui, et 100 compagnons avaient participé à la bataille de Badr en sa compagnie. La bataille sanguinaire débuta entre les deux belligérants. Un messager est venu de Médine. Les cavaliers l'ont arrêté, mais il leur a dit que tout allait bien. En fait, il était venu annoncer la nouvelle du décès du calife Abu Bakr. On l'a dirigé vers Khalid. Khalid qui a annoncé secrètement la nouvelle du décès du calife. Mais le messager a dit à Khalid qu'il n'avait rien dit aux soldats. Khalid a pris la lettre et l'a placée dans son carquois. Il avait peur que cette nouvelle ne sème la confusion dans les rangs et ne baisse la vigueur des combattants musulmans. En tout cas, les musulmans ont combattu fermement jusqu'à dans la soirée, tant et si bien que l'armée byzantine a pris la fuite. Plus de 100 000 byzantins sont morts lors de cette bataille et 3 000 musulmans sont tombés à martyr, parmi lesquels se trouvait Ikrama bin Abi Jahl. L'empereur s'est enfui sur le champ de Homs lorsqu'il a eu la nouvelle de la défaite. Après la victoire à Yarmouk, l'armée musulmane s'est répandue dans tout le Levant. Et l'armée musulmane a remporté des victoires faciles à Kinasirin, Antioche, Jumma, Sarmin, Tizin, Kurs, Tel Azaz, Zalouk et Rabban. Ici se termine la mention des compagnons pour aujourd'hui. J'en ferai mention peut-être après le Ramadan, étant donné que le mois du Ramadan débute la semaine prochaine, Inch'Allah. Je voudrais évoquer à présent Mokarama Sabiha Begum Sahiba, dont je dirigerai la prière funéraire après la prière de Jumu'ah. Elle était la petite-fille maternelle du petit-fils paternel du Messie promis alayhi salam. Elle était la fille de sa fille aînée et elle était la fille de Hazrat Mirza Rashid Ahmad Saheb. La défunte était aussi l'épouse de Sahibzada Mirza Anwar Saheb, qui était le fils du musulman Maoud radhiyallahu anhu. Sa mère était Umm Nasir. La défunte est décédée le 30 avril dernier à l'âge de 90 ans à la Tahir Heart Institute. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était aussi ma tante maternelle. Hazrat Mirza Rashid Ahmad Saheb était le fils de Hazrat Mirza Sultan Ahmad Saheb. La défunte était la fille d'Amatou Salam Begum Saheba, la fille aînée de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Le dernier mariage de la famille du Messie Premier Islam auquel avait participé Hazrat Majan Arabwa était le mariage de la défunte. La défunte était la grande sœur de Hazrat Sayyida Asifa Begum Saheba, l'épouse du quatrième calife. Et la défunte laisse derrière elle une sœur et trois frères. Anissa Fawzia Saheba, la sœur de la défunte, relate ceci. La défunte était la fille aînée de la famille. C'est pour cette raison que nos parents accordaient une grande importance à son opinion quand ils devaient prendre des grandes décisions. Et elle était très perspicace et ses parents avaient d'ailleurs une grande confiance en elle. Et elle était toujours à la hauteur de l'attente de ses parents. Elle s'est très bien occupée de l'éducation de ses frères et sœurs. La sœur de la défunte ajoute, « On m'avait proposé en mariage à un des fils de Hazrat Musleh Maud. Hazrat Musleh Maud a déclaré, « Elle appartient à une bonne famille. Ses deux sœurs sont d'ailleurs mébrues, c'est-à-dire la défunte ainsi que l'épouse du quatrième calife étaient toutes les deux les brues de Hazrat Musleh Maud. » Hazrat Musleh Maud a déclaré, « Ses deux sœurs sont mébrues et elles sont emplies d'affection et préservent l'unité de la famille. » Le fils de la défunte écrit, « Ma mère était simple, bienveillante envers les pauvres. Elle venait en aide à tout le monde. Quelle que soit sa situation, elle aidait les nécessiteux et ressentait une grande sympathie à leur égard. Elle avait les larmes aux yeux lorsqu'elle écoutait ces gens-là et les aidait dans la mesure du possible. Ce ne sont pas là des exagérations, elle possédait certainement ses qualités. Elle avait un comportement exemplaire à l'égard de ses employés de maison. L'une de ses filles écrit qu'elle s'occupait d'eux comme si c'était ses enfants. Lorsqu'une employée allait se marier, elle a demandé à la défunte qu'elle souhaitait avoir la même dot qu'elle avait offerte à sa propre fille. Et la défunte a préparé donc la même dot pour elle. Elle laisse derrière elle trois filles et un fils. Elle était moussie par la grâce d'Allah. Sa prière funéraire a été faite hier et elle a été enterrée à la Bahishti Maqbara. Qu'Allah permette à ses enfants de suivre son exemple de piété, et qu'il leur permette de vivre ensemble en s'aimant les uns les autres, et qu'il leur permette d'être toujours attachés à la Jamaat et au Khalifa.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.